Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour, nous avons une nouvelle qui, moi, ça m'a frappé parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle et de choses comme celle-là de ce temps-ci. Alors, quand on voit l'annonce d'une maison intelligente, moi, ça a frappé l'imagination. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Vania Aguiar. Bonjour, Mme Aguiar.
Bonjour.
Vous êtes présidente fondatrice de la Fondation Les Petits Rois. Avant de parler de la maison intelligente, peut-être poser le cadre et nous expliquer que sont les Petits Rois.
Les Petits Rois sont des gens atteints d'une déficience intellectuelle démodérée à sévère, avec ou sans troubles associés et les troubles de l'autisme.
D'accord.
Donc, la Fondation aide, soutient ces personnes depuis qu'ils sont tout petits, depuis des 4 ans jusqu'à la fin de leur vie, et dans la région de Montréal, ainsi que leur famille.
Et ça fait déjà, je pense, près d'une vingtaine d'années que les Petits Rois travaillent en ce sens-là.
Oui, 23 ans.
Oh là là, OK, d'accord. Vous avez certainement développé une expertise. Et la nouvelle, là, c'est l'inauguration d'une maison intelligente dans le quartier Côte-des-Neiges, je crois.
Oui.
Qu'est-ce qu'une maison intelligente? Qu'est-ce qu'elle a d'intelligent?
Au fait, c'est une maison connectée.
D'accord.
J'avais un grand rêve. Nos enfants, nos jeunes apprennent toujours à travers des pictos, toutes les tâches qu'ils font au quotidien, soit des tâches d'hygiène, soit des tâches ménagères, soit à l'école, soit au travail. Ils ont leur meilleur ami, c'est toujours les pictos qui décortiquent chaque tâche qu'ils doivent faire. Et donc, on utilise ces pictos pour le faire comprendre, puisque
oui,
nos jeunes, pour la plupart, ne peuvent pas lire. Donc, mon rêve était de pouvoir créer une maison connectée où la connectivité de cette maison, dont les technologies, pourraient accompagner nos jeunes pour qu'ils puissent continuer d'apprendre. Donc, tous les apprentissages possibles d'une vie quotidienne, du matin au soir jusqu'au dodo. Apprendre à prendre sa douche toute seule, à se raser, à se peigner, aller à la toilette, s'habiller, choisir un aliment, faire une recette, donc tout ce dont on a besoin pour vivre.
Puis, en fait, ça justement, le mot, c'est vivre et de façon la plus autonome possible. Et donc, la maison est comme un cocoon, comme un cocon qui en même temps donne, est-ce que c'est par des écrans qui sont un peu partout,
oui,
disposés dans la maison?
Oui, absolument. Donc, la maison est très, très connectée. Donc, chaque jeune va avoir sa technologie personnelle, que ce soit des montres intelligentes, de téléphone intelligent ou de tablette. Et dans la maison, dans des différents endroits dans la maison, on aura des écrans d'apprentissage, comme à l'entrée dans le vestibule. On a un écran d'apprentissage pour que les jeunes puissent s'habiller convenablement selon la température.
Ah, ben oui.
Ne pas sortir dehors à moins 40, même que je ne crois pas qu'on aura de moins 40.
S'il pleut ou si c'est on prévoit que la température baisse beaucoup, être certain qu'on amène un imperméable ou un manteau.
Oui, ouais, qu'on met des bottes, on ne sort pas en sandales quand il fait moins 40 ou on ne met pas des bottes, mitaines et gants quand il fait plus 40.
Exact,
donc,
tout
pour
à fait.
Pour qu'ils puissent bien comprendre. Puis, dans la cuisine, on a un autre écran d'apprentissage pour que ces jeunes-là puissent apprendre à faire une recette, par exemple, le tour de rôle, mettre la table, faire la vaisselle, s'entraider. On a tous les appareils ménagers sont connectés, comme le frigo peut les aider à bâtir une liste d'épicerie, par exemple, détecter l'aliment qui est périmé dans le frigo, donc il ne faut pas le manger. Dans la salle de lavage, on a aussi un autre appareil connecté qui va le montrer comment faire son lavage, comment séparer le blanc des couleurs.
Ah ben, c'est pas tout le monde qui fait ça, croyez-moi.
Ouais. Non, je sais.
Ça fait des vêtements qui ont déjà été blancs. Oui.
Donc voilà. Alors, ils vont apprendre. Ces technologies-là sont pour maximiser et optimiser leur quotidien dans cette maison et faciliter aussi la tâche pour eux au niveau de l'apprentissage pour qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Mais ça va aussi les aider à intégrer la communauté, faire partie de cette communauté-là. Oui. Ils vont sortir dans le quartier avec les technologies, donc ils vont se voir, les gens vont le voir, les gens vont comprendre qui ils sont, vont les respecter.
Exact.
Donc ça va être très important aussi. Donc, c'est une maison du futur, je crois, parce que c'est cette maison-là qui va véritablement changer l'avenir de nos jeunes qui sont toujours en apprentissage.
Exact. Et là, vous pouvez accueillir en ce moment, la maison qui vient d'être inaugurée va accueillir combien? 6, 8?
8 jeunes.
D'accord.
8 jeunes de 22 ans. À 32 ans.
D'accord. Et il y aura beaucoup d'autres choses aussi. Je pense qu'il va y avoir des ateliers pour développer d'autres habiletés ou d'autres loisirs.
Oui, absolument. En fait, on est en train d'instaurer un programme d'activités pour faire en sorte que le jeune puisse apprendre davantage. Bon, ils vont s'épanouir, évidemment, mais pour qu'il continue aussi apprendre. Et tous ces ateliers, c'est toujours en lien avec l'estime de soi, la motricité fine, la motricité globale. Donc, on a de la musicothérapie, de l'art-thérapie, de la boxe.
De la boxe? Oh, OK.
Ouais, c'est très bien, la boxe, parce que ça aide beaucoup, ça centre beaucoup les jeunes dans l'espace. C'est aussi une façon d'expression corporelle.
Oui.
L'estime de soi. Donc, c'est très bénéfique pour cette clientèle.
Et parce que vous parlez d'une population, enfin, d'un groupe de jeunes qui ont entre 22 et 32, parce que ça va pallier, je pense, à une grosse coupure qui a lieu après la scolarité ou après l'âge scolaire, quand les jeunes qui vivent avec une déficience intellectuelle se retrouvent adultes à partir de 18-20 ans. Souvent, c'est là qu'il y a une forme d'abandon.
Oui. C'est les trous noirs. Et au fait, la Fondation, depuis quelques années, on essaye justement de pallier à ce manque et en créant justement des plateaux de travail en stage, tout ça très adapté pour eux. Et maintenant, évidemment, les logements pour cette clientèle vulnérable. Et c'est surtout, c'est parce que les parents, ils vieillissent, les parents s'affaiblissent. Et à un moment donné, on n'est plus capable de prendre soin de nos enfants. Donc, il faut... notre rêve, c'est d'avoir un endroit sécuritaire et un endroit où on est sûr que les jeunes vont pas seulement se balancer toute la journée,
non,
mais vont continuer d'être stimulés et continuer d'apprendre. Donc... ça, c'est la maison intelligente de Petit-Roi. On va avoir toutes sortes de programmes, on va les stimuler. Et ils vont vivre, comme vous et moi, une vie la plus normale possible.
Et ça, c'est vraiment unique. Il faut comprendre qu'il n'y a pas d'autres maisons comme celle-là au Canada. C'est une première.
Non, nous sommes très fiers de dire que c'est la première. Et puis, nous avons développé ce concept avec... les chercheurs Danny et Lucie Desrochers de l'UQTR.
D'accord.
Et c'était un rêve qu'il avait et un rêve que j'avais. Et puis, on a commencé à se parler et de là est née cette maison.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui va pouvoir se reproduire ailleurs? Parce que tout de même, ça l'a demandé de la part de la Fondation, appuyée par les gouvernements, de mettre tout ça en place. Est-ce que c'est un modèle qui peut être reproduit ou est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être apprises dans ce modèle-là, au moins en partie, qui vont pouvoir être appliquées ailleurs?
Absolument. Absolument. Et ça, c'est un autre rêve que j'ai, c'est de pouvoir justement de répliquer partout au Québec, parce que c'est pas seulement dans la région de Montréal qu'on a des petits rois. On a des petits rois partout au Québec, surtout en région où les services sont beaucoup plus...
morcelés.
Exactement. Donc, il y a une certaine précarité des familles, puis des nos petits rois partout en région. Donc, moi, je souhaite que le gouvernement puisse être à l'écoute et qu'on puisse ensemble travailler pour faire en sorte qu'on soit capable de répliquer partout au Québec. Parce que c'est l'avenir pour nos jeunes. On doit oublier le concept qui existe en ce moment où on plaque nos jeunes, où nos jeunes arrêtent d'apprendre, perdent leurs acquis et se font soigner, oui, mais ils se font balancer toute la journée, il n'y a pas de stimulation. Donc, ce qu'on veut, c'est au contraire, parce que ces jeunes-là sont des Québécois et des citoyens à part entière.
Exact.
Ils ont le droit, tout comme vous et moi, d'avoir un avenir meilleur et de pouvoir vivre bien au Québec. Donc, j'y crois sincèrement que si on travaille ensemble, on est capable de reproduire cette maison un peu partout au Québec et donner la chance à ces jeunes d'avoir une belle vie.
Ben, merci beaucoup. Là, je suppose que la maison est ouverte, elle est fonctionnelle, elle est habitée en ce moment?
Elle n'est pas encore habitée. Les jeunes vont commencer à intégrer leur maison à partir du mois d'avril.
Oh, ben avril, ça vient bientôt. Bravo.
Très bientôt.
Hein? Ben, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Aguillard, d'avoir été là pour nous en parler. Puis on espère qu'il y a des maisons intelligentes là, qui poussent un peu partout, comme vous dites, parce que des petits rois et des petites reines, devons nous dire.
Exactement.
Il y en a partout autour de nous, dans nos familles, ainsi de suite. Et c'est vrai qu'à l'âge adulte, là, souvent, ben, il y a comme un grand vide. Ben, bravo. Et c'est où à Côte-des-Neiges? Je suis curieux. Moi, j'ai grandi dans le quartier Côte-des-Neiges. Alors, je connais la géographie un peu. C'est quoi,
oui,
l'adresse?
C'est sur la rue Lavoie.
Lavoie. Ah, OK, d'accord. Ben, j'ai une bonne idée. Parfait. Alors, ben, ça va nous faire plaisir de vous en reparler quand peut-être une autre maison va vous ouvrir ses portes.
Oui, ben, merci beaucoup.
Merci.
Au revoir.
Take a while.
De retour et avec de retour avec Élisane Pellerin. Bonjour Élisane.
Bonjour.
Pendant la pause, nous discutions de nos amis les animaux à la maison.
Oui.
Voilà, on en a tout le monde ici dans le studio, on en a quelques-uns.
On est les amis des animaux.
On est les amis des animaux.
Mais
tout
revenons
à
notre sérieux, François.
Oui, oui, voilà, il y a eu un sondage en France sur l'opinion publique au sujet des Jeux olympiques et paralympiques.
Oui, les Jeux olympiques et paralympiques ont amené la discussion, en fait, sur la vision qu'ont les Français sur le handicap. Et c'est assez intéressant, François, on a un échantillon de 1002 personnes.
D'accord.
Qui est représentatif de la population française. Donc, on a essayé d'aller chercher des gens d'un peu partout, de tous les statuts sociaux.
Tous les âges, toutes les régions.
Tous les gens, voilà. Donc, les Français ont une connaissance assez limitée du handicap et ils associent surtout à l'handicap moteur.
Ah, OK.
C'est ce que ça a dévoilé au début, en fait, au début de l'analyse. Aussi, le handicap est associé à des termes de motricité physique, comme un fauteuil roulant, par exemple.
Moi, je trouve ça un peu normal que ça s'incruste dans l'esprit des gens parce que le logo du handicap, dans à peu près tous les espaces publics, c'est quelqu'un qui est dans un fauteuil.
Effectivement, donc 72 % des gens reliaient le handicap à un fauteuil roulant, 8 % à un handicap visuel, 12 % à un handicap intellectuel, qu'on appelle en France un handicap mental, là, mais qu'on appelle ici donc un handicap ou une différence intellectuelle. Et puis, donc, c'est surtout ce que ça a révélé dans ce sondage-là. Aussi, il associe l'handicap, évidemment, je l'ai dit, au problème de motricité.
Oui.
Les difficultés sont d'abord perçues comme étant des difficultés d'accessibilité physique à
D'accord.
65 % et accessibilité numérique, par exemple, duquel on parle de plus en plus. N'est associé pour les Français dans cet échantillon-là à seulement 13 %
Oh, parce qu'il n'y a pas longtemps, on parlait des sites qui étaient plus ou moins accessibles. Alors, si on peut penser que l'accessibilité numérique n'est pas immédiatement, là, ne vient pas immédiatement à l'esprit, on peut comprendre pourquoi ce ne sont pas tous les sites qui sont accessibles.
Oui, bien effectivement, là, les Français n'en voient pas l'utilité de prime abord, à tout le moins, n'y pensent pas par réflexe, hein, on pourrait dire. Donc, effectivement, ouais. Ça montre que c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu de la part des Français. Par contre, intéressant, il y a des personnes, il y a 74 % des gens qui pensent que la société française ne s'adapte pas suffisamment aux besoins des personnes concernées.
Ah, d'accord.
Je ne sais pas si vous vous rappelez, François, mais il y a quelques semaines, on avait parlé des jeunes Français qui disaient que, bon, les personnes en situation d'handicap coûtaient trop cher à la société.
Était un fardeau.
Et là, on voit quand même que les gens pensent que la société française devrait mieux s'adapter.
D'accord, oui,
je me
souviens.
Ce que ça peut montrer, en fait, là, c'est que les personnes qui sont un peu plus âgées ont peut-être plus de compréhension du handicap. Et donc, il y a quelque chose d'un peu positif là-dedans, dans l'optique où quand même les gens voient que la société doit s'adapter aux personnes en situation de handicap.
Exact.
Donc, on peut voir ça comme un début chez les Français, même si on a quand même du travail à faire au niveau de l'acceptation sociale et au niveau de l'accessibilité. On a quand même une volonté de la part de la population large d'adapter la société.
Exact. Et enfin, on peut dire que depuis un an, on parle beaucoup plus d'handicap et d'accessibilité en France. La tenue des Jeux paralympiques là-bas ne réglera pas tous les problèmes, mais semble certainement augmenter de façon importante le niveau de conscience, si je peux
Même
dire,
chose,
de la société.
Il y a un niveau de représentation à la télévision est jugé insuffisant. Par les Français, par près du trois quarts des personnes françaises, malgré le fait que 75 % d'entre eux estiment avoir vu au moins une personne handicapée dans ce qu'ils regardent de façon quotidienne ou de façon assez régulière. Donc, on en voit quand même, mais on considère que c'est pas assez.
Oui, ben en fait, faire un lien avec une autre nouvelle que vous nous avez rapportée. Dans le milieu du cinéma français, l'inclusion est encore une fiction à ce qu'on nous dit, alors que l'édition 2024 des Césars, évidemment, on se rappelle que les Césars, ce sont les prix remis à l'intérieur de l'industrie cinématographique française. Donc, la dernière édition des Césars a été critiquée par les associations pour son manque de diversité. Le syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap regrette l'absence criante des personnes handies. En France, on dit des personnes handies parce que ça fait plus court, dans les métiers du 7e art.
Effectivement, c'est quelque chose qui a été critiqué, François, dans les dernières semaines, et surtout avec l'arrivée des Césars, là, qui a eu quand même une belle portée médiatique. Par contre, on a vu beaucoup de stars d'Hollywood, entre autres de personnes très connues. On a très peu vu personnes en situation de handicap, que ce soit chez les acteurs, mais également dans ce qui a été présenté au niveau des Césars, donc les films qui ont été présentés, les films qui étaient nommés dans les différentes catégories. Ça manque de représentation à ce niveau-là.
En 2019, Julien Richard Thompson fondait avec quelques militants le premier syndicat des professionnels du cinéma en situation de handicap. Entre parenthèses, visible ou indivisible. Et c'est M. Julien Richard Thompson qui, justement, en fait, fait remarquer à juste titre que c'est pas juste devant la caméra, mais c'est aussi derrière.
Oui, bien sûr. Donc, évidemment, on manque, comme un peu partout, on en parle dans les dernières semaines beaucoup, il y a un manque de représentativité des personnes en situation de handicap dans les métiers de l'art cinématographique, dans les métiers de l'art en général également, comme dans toutes sortes d'autres métiers, ces gens-là ne sont pas représentés, on peine à trouver de la main-d'œuvre, mais en même temps, on est un peu plus résistant à prendre de la main-d'œuvre qui aurait des situations de handicap, malgré le fait que dans plusieurs cas, les personnes en situation de handicap sont tout à fait capables de faire le travail avec peu d'adaptation.
Oui.
Donc, c'est quelque chose dont on parle beaucoup également, de mieux faire le pont entre les personnes en situation de handicap et le milieu de travail. Ça pourrait régler des problèmes au niveau du manque de personnel. Et c'est un peu ce qu'on voit également dans le milieu du cinéma, c'est-à-dire que ces personnes-là ne sont pas représentés dans les métiers et, si les personnes qui écrivent ne sont pas en situation d'handicap...
Voilà, ça fait pas des scénarios nécessairement inclusifs.
Oui, et les personnes qui proposent les idées ne sont pas en situation d'handicap et qu'on ne prend pas leurs idées en considération, c'est sûr que ça manque de représentation au bout de la ligne. Idées qui ressortent sont des idées où on a peu de représentation de situation de handicap où il va y avoir des stéréotypes.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Ou des stéréotypes, comme vous dites, des représentations qui maintiennent des mythes. Mais comme on est Oreo ici, hein, les bonnes et les mauvaises nouvelles, on aime ça alterner.
J'adore les biscuits, François. Oui,
alors, à Paris, il y a des télécommandes qui sont maintenant distribuées. Moi, je trouve ça, comme idée, là, c'est tellement simple, mais c'est vrai. Des télécommandes pour aider les personnes malvoyantes à se repérer dans la rue.
C'est pas parce que c'est simple, François, que c'est pas
C'est pas une bonne
efficace,
idée.
Efficace, effectivement. Ouais. Les meilleures idées sont toujours très simples. Donc, on parle effectivement ce jeudi. La Ville de Paris a distribué avec une association d'aide aux personnes malvoyantes des télécommandes activant les modules sonores qui sont présents sur différents équipements parisiens, comme les feux de circulation. On parle de 2500 boîtiers qui doivent être posés avant les yeux pour faciliter les traversées de rues dites complexes. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que les personnes avec les télécommandes peuvent activer les feux un peu à la façon là, des boutons qu'on voit ici au Québec sur lesquels il faut appuyer. Mais encore faut-il trouver le bouton sur le poteau, là?
C'est ça. Au lieu que le bouton soit sur le poteau, puis des fois, on ne sait pas si le bouton de ce côté-là du poteau, c'est pour traverser cette rue-ci cette rue-là.
Et souvent, ils ne sont pas accessibles. Il y en a neige ou ils sont très loin. J'imagine que quelqu'un en situation d'handicap visuel, si moi, j'ai de la misère à le trouver avec mes deux yeux, quelqu'un qui a un handicap visuel a beaucoup de difficultés à le trouver aussi.
En plus, des fois, on cherche pour s'apercevoir que finalement, il n'y en a pas.
Oui, effectivement.
Mais donc, ces télécommandes-là, c'est vraiment comme un petit gadget qu'on a dans sa poche. Et quand on approche du carrefour, on pèse sur un bouton tout simplement et à ce moment-là, ça va activer une description de ce qui se passe, un feu sonore qui va nous dire le feu est au rouge ou il est au vert. Et ça permet de connaître donc, les télécommandes proposent un mode manuel et un mode automatique permettant de solliciter les boîtiers à proximité, donc de connaître la localisation. Donc, ça permet aussi de savoir où est la prochaine traverse sécuritaire. Ça nous permet, dans ce cas-là, ça peut permettre de faire un itinéraire qui est plus sécuritaire. Alors,
c'est quand même assez avancé, mais ça va grandement aider les personnes en situation de handicap. Et avec les Jeux de Paris qui s'en viennent, on va essayer de rendre les déplacements sécuritaires pour les personnes en situation de handicap qui seront là, bien sûr.
Moi, ce qui me frappe le plus, c'est à la fin de la présentation de la mairie de Paris, c'est de dire « Nous étudions la possibilité d'installer des boîtiers sonores permettant de signaler l'emprise des chantiers sur la chaussée. » Oh là là! Ça, ce serait pratique parce que les trottoirs barrés, c'est l'enfer. Et ici, de pouvoir repérer les arrêts d'autobus, ainsi de suite. Oh, ça, ce serait... ça, c'est un vrai rêve.
C'est un rêve de François, mesdames
et messieurs. Et de plusieurs autres.
De plusieurs autres.
On se reparle après la pause.
Au quotidien des tours avec François Beauregard.
Et avec Élisane Pellerin. Et Élisane, il y a une nouvelle qui, moi, c'est comme une grosse nouvelle.
C'est une grosse nouvelle.
Puis je trouvais ça bien qu'on puisse peut-être l'aborder tout de suite. Je voudrais pas qu'on manque de temps.
Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais c'est
non,
une grosse
mais
nouvelle,
ça fait réfléchir. C'est l'ONU qui a le Québec dans sa mire.
Oui, et le Canada, en fait, a récemment été blâmé par Tomoya Obokata, le rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavagisme.
Ouh.
Et oui, vous avez bien entendu. Donc, je vous explique. On parle du manquement à ces programmes au niveau des personnes ayant une déficience intellectuelle au Canada. On parle que ces personnes-là seraient exploitées.
D'accord.
Étant donné qu'on ne respecte pas leurs droits au niveau du travail, lorsqu'on les fait travailler dans les entreprises, François.
On parle de plateaux de travail qui sont généralement caractérisés comme étant des programmes dans lesquels les personnes vont qui sont en situation, qui ont un handicap intellectuel, une déficience intellectuelle, sont rassemblées sans être mélangées avec des personnes n'ayant pas une situation d'handicap. Et sur ces plateaux-là qui doivent être en principe une situation temporaire. Les gens tendent à y rester longtemps. Et là, ils travaillent sans avoir les mêmes droits que des travailleurs ou des travailleuses.
Oui, effectivement. Donc, on parle de droits qui sont bafoués, entre autres, dans le fait, vous l'avez dit, qu'ils ne sont pas mélangés à d'autres, donc qu'on crée une forme d'exclusion, mais également qu'ils reçoivent des salaires très bas. Parfois, ils ne sont pas rémunérés totalement pour ce qu'ils font, étant donné qu'on considère donc qu'ils ne sont pas aussi performants que des personnes n'ayant pas de situation d'handicap, ou du moins, c'est comme ça qu'on le justifie, malheureusement. On parle aussi que les différentes lois et normes du travail ne s'appliquent pas au plateau de travail, donc incluant les normes sur le salaire minimum.
Exact.
On a aussi pas de règles syndicales qui s'appliquent à ces gens-là, y compris lorsque l'entreprise est syndiquée. Donc, ils n'ont pas le droit aux mêmes avantages syndicaux que leurs collègues.
Et ces programmes-là sont institutionalisés, là, de 2013 à 2021, il y a eu 165 millions de dollars qui ont été investis, selon le vérificateur général du Québec, dans ces programmes-là. Encore une fois, il s'agit d'une autre raison d'expliquer la prévalence des plateaux de travail au Québec et le fait que les prestataires du programme de solidarité sociale n'ont pas le droit de travailler pour plus que 200 $ par mois. Alors, ça crée comme un cul-de-sac administratif, là.
Oui, et ben, malheureusement, ça offre aux entreprises une façon d'avoir des gens qui travaillent à très peu de frais, voire à pas de frais du tout. Et donc, il y a malheureusement des entreprises qui en profitent. Et ces gens-là, je l'ai dit, ont peu de recours au bout de la ligne parce qu'ils n'ont pas droit à un syndicat. Et souvent, on s'entend des personnes qui sont en situation d'handicap intellectuel, ne connaissent pas leurs droits.
Exact.
Et sont moins portés, peut-être moins outillés pour se défendre. Et ils ont un travail, ils veulent travailler et donc sont aussi peut-être moins portée à défendre leurs droits de peur de perdre leur travail.
Exact. Et là, il faut faire une distinction. On parle des plateaux de travail qui sont, en principe, une méthode d'apprentissage vers l'autonomie. On ne parle pas des emplois qui sont intégrés à l'intérieur de sociétés où il y a des employés qui ont ou n'ont pas, qui vivent ou ne vivent pas avec des situations d'handicap. Mais le concept du plateau de travail qui devient pérenne, des gens ils vont y être pendant 10 ans, pendant 20 ans, et c'est là qu'il y a un abus qui est dénoncé.
Il y a des entreprises, François, on a vu plusieurs exemples, et vous en avez parlé aussi dans l'émission, on a vu plusieurs exemples où ça fonctionne bien au niveau de l'employabilité des personnes en situation de handicap. Oui. On les emploie à leur juste valeur, où on fait des accommodements très raisonnables pour eux et on respecte leurs droits. On ne parle pas de ça ici, on parle vraiment des plateaux de travail qui sont voilà des méthodes pour apprendre à ces gens-là à travailler. Et le but de ça, en fait, c'est de les payer moins parce qu'ils n'ont pas, comme je le disais tout à l'heure, atteint la pleine capacité au niveau des tâches qu'ils devraient faire. Par contre, le but étant de leur montrer la tâche pour que dans quelques semaines, ils soient tout à fait capables de la faire et qu'ils arrivent à avoir un salaire donc concurrentiel à celle de leurs collègues. Donc, ça devrait être vraiment une transition. Pour que les gens qui ont peut-être un peu plus de difficultés, qui ont besoin d'un peu plus de temps pour apprendre une tâche, puissent le faire et que ce soit quand même rentable pour les entreprises de leur montrer à faire ces tâches-là alors qu'ils ne sont pas à leur plein salaire. Par contre, comme vous le dites, François, après quelques temps, après quelques semaines, à la limite quelques mois, ces gens-là devraient être intégrés à l'emploi normal et recevoir un plein salaire selon leurs droits et être en lien avec des collègues. Et c'est là où ça ne se fait pas toujours.
Et c'est là que, pardon, le rapporteur spécial de l'ONU qui dénonce les situations d'esclavagisme moderne qui prennent des formes parfois insidieuses, là, pointe le Canada en entier, le Québec entre autres, mais d'autres provinces aussi.
Mais en fait, les plateaux de travail, là, c'est au fédéral, donc on en voit dans toutes les provinces.
Exact.
C'est quelque chose, comme je le disais il y a quelques secondes, sur papier, c'est intelligent. Il y a beaucoup de plateaux de travail où ça fonctionne bien. Mais évidemment, les gens ont trouvé une faille dans le système.
Oui.
Et on malheureusement, ils exploitent.
Et ça devient à ce moment-là une situation qui est permanente. Et on parle de gens qui ont passé pratiquement toute leur vie adulte coincés là. Et c'est là que l'exploitation intervient. Là.
C'est clairement de l'exploitation.
Exact.
Et comme je le disais, c'est de l'exploitation un peu scientifique parce que ces gens-là, peut-être, n'ont pas les outils ou n'ont pas le désir de faire valoir leur point. Et donc, c'est un peu le rôle des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, donc des gens hautement qualifiés dans leur domaine, que les Nations Unies envoient un peu partout. Dans le monde pour faire des rapports aux Nations Unies. Donc, lorsque les Nations Unies ont une inquiétude par rapport à quelque chose, envoient un expert pour qu'il fasse un rapport et que l'ONU puisse en savoir plus. Donc, ça se passe dans différents aspects. Là, on parle d'exploitation, mais c'est le cas dans des situations de guerre, c'est le cas dans des situations de racisme, c'est
D'immigration. Exact. Ou de réfugiés. Mais en tout cas, on va voir comment les gouvernements réagissent à ça. Souvent, on a l'impression que les dénonciations faites par l'ONU...
ça passe un peu la beurre.
Ben oui, c'est ça. Je voyais comme l'eau sur le dos d'un canard. Là.
Savoir que l'ONU n'a pas... Ils peuvent critiquer.
Mais
ils
n'ont pas d'outils de coercition.
Effectivement. Exactement. Donc, généralement, les gouvernements qui sont interpellés par l'ONU prennent la claque, comme on dit, et passent à autre chose.
Voilà, ils vont.
Je m'attends à avoir assez peu de réactions, malheureusement.
Ben, ça serait bien quand même que tout ça suscite, on l'espère, suscite un débat, puis un questionnement, puis qu'on puisse... donner suite à cette
parle.
Dénonciation.
Il n'y a, personne qui veut avoir l'ONU à dos.
Non,
c'est déjà un début que l'ONU en parle, que l'ONU qui a quand même une grande vitrine. parle de ça, il y a un homme, c'est déjà un bon début, mais regardons si ça va aller plus loin.
Exact. Il y a un programme qui a fait la manchette aussi cette semaine. Il y en a même été question, je pense, dans les journaux, dans les grands médias, mais même encore, il y a eu des commentaires éditoriaux dans la presse, entre autres, en week-end, où les gouvernements du Québec et du Canada ont annoncé aujourd'hui un partenariat novateur avec l'organisme Mission Unité-Née pour la création de 1000 nouveaux logements sociaux et abordables pour les personnes âgées au cours des deux prochaines années. Il s'agit d'un projet où on vise essentiellement à bâtir 100 logements dans 10 villes différentes.
Oui, on en parle depuis plusieurs semaines. On est en crise du logement. Je ne l'apprends à personne et on a surtout des besoins au niveau des logements sociaux qui sont des logements abordables.
Exact.
Et on parle dans ce projet-là en particulier de logements sociaux abordables pour les personnes âgées autonomes.
C'est des investissements des deux ordres de gouvernement avoisinant les 235 millions. 10 immeubles de 100 logements seront érigés dans 10 villes différentes du Québec. Ça commence par Shawinigan. Chacun des immeubles sera doté d'un fonds de réserve de 500 000 $ provenant d'un don philanthropique de M. Luc Maurice. Luc Maurice, son nom est associé au groupe Maurice, hein, qui sont des spécialistes dans les résidences pour personnes âgées. Et ce modèle-là va permettre de faire des économies d'échelle, du sens où tous les immeubles seront les mêmes, seront bâtis de la même façon, de la même manière. Et les deux ordres de gouvernement y injectant près de 235 millions, ben là, on va créer des immeubles qui n'auront pas de dette et qui auront un fonds de roulement dès le départ. Alors, c'est une intéressante, c'est un intéressant partenariat entre les ordres de gouvernement fédéraux et provinciaux, le domaine privé autant que le public, et en même temps avec une bonne dose de philanthropie. Alors, on va
voir. On aime beaucoup les doses de philanthropie parce que oui. ça aide des projets.
Voilà, exactement. Parlant de personnes âgées, personnes des aînés de Québec, il y a une entreprise d'économie sociale qui met sur pied une collaboration pour les petites jobines.
Oui, on va pouvoir à Québec demander de l'aide pour les personnes qui sont aînés vont pouvoir demander à avoir des menus de travaux qui seront faits à la maison. Donc, des gens qui sont un peu manuels, là, qui vont pouvoir venir à la maison pour effectuer des travaux simples et aider les personnes qui en ont besoin. On sait que, malheureusement, quand on n'a pas la force physique ou...
L'équilibre
pour faire ce type de travaux-là,
exact.
Et j'en sais quelque chose, c'est difficile. Donc, c'est tout simple hein, comme façon de faire, mais ça va permettre à des personnes qui n'ont pas les moyen de payer quelqu'un ou qui trouve ça difficile de trouver du bon personnel.
Tout à fait. Et de rester à la maison. Et ça, c'est important
oui.
aussi parce que ça fait partie de
l'autonomie. On essaie de garder les personnes âgées le plus possible à la maison, mais clairement, entretenir une maison, c'est bien de petits travaux
oui.
Qu'il faut faire et quand on n'a pas les moyens de les faire ou quand on n'a pas de personnes de confiance pour les faire, ça peut vite devenir un casse-tête. Donc, on va envoyer des personnes à la maison. On a besoin, oui. voilà, c'est ce que j'allais dire, on a besoin de bénévoles dans la région de Québec pour faire ces petits travaux-là. Parce que, bien sûr, l'initiative est très intelligente, mais encore faut-il qu'il y ait des bénévoles qui...
Oui, à l'autre bout.
À l'autre bout, voilà.
Ben, c'est ça, le Centre d'action bénévole du Contrefort. Assure gratuitement une partie de ses menus travaux, soit les plus simples, comme accrocher un cadre ou installer des rideaux. Et quand les bénévoles de l'organisme ne peuvent pas répondre à la demande, bon, alors on réfère...
À des gens de la construction qui sont...
Oui,
qui
la
sont...
coopérative de solidarité de services à domicile de Québec. Hein, ça, c'est long, ça. Mais enfin, c'est pas grave, mais qui prend le relais. Et justement, donc, on parle de déterminer les coûts associés et, comme vous le dites, de trouver peut-être des gens un peu plus spécialisés. Parce que moi, j'ai assisté à ça, de voir des personnes âgées qui demandent au livreur d'épicerie « Est-ce que vous êtes capable de déboucher mon évier?
Oui. »
Ou « Est-ce que vous pouvez brancher... »
Accrocher
un cadre ou installer mon air climatisé, ma climatisation pour l'été, ainsi de suite. Puis, ben, c'est un peu gênant. Souvent, un, ça peut ne pas être bien fait, ou deux, ça peut coûter. Surtout que les travaux ne sont pas rémunérés adéquatement non plus. Voilà. Alors, ben, on espère que ça fasse.
Que ça fasse boule de neige, en fait, parce que voilà, quand j'ai eu ça là, cette semaine, je me disais, c'est tout simple, mais c'est ô combien efficace. Donc, on espère que d'autres associations vont prendre la balle au bon et en mettre un peu partout au Québec. Ce type de projet-là peut vraiment aider les gens, que ce soit les personnes âgées, les personnes en situation de handicap,
exact,
ou plus largement des personnes qui ne sont pas du tout manuelles.
Oui.
Et il peut y avoir des échanges de services qui sont faits et tout ça.
C'est vrai.
Il y a différentes associations comme la Corderie, par exemple.
J'allais le dire.
Oui.
Ah, vous connaissez la Corderie. Ben,
je
bravo.
Je connaissais la Corderie.
Ben, ouais.
Fonctionne un peu sur ce principe-là, c'est-à-dire d'échange de services sur banque, sur des banques de temps. Donc, les gens qui sont plus manuels peuvent offrir des services manuels. Des gens qui sont beaucoup moins manuels peuvent offrir des services, que ce soit des cours ou des services de correction ou peu importe. Et donc, ça permet à tout le monde de faire des échanges de services, d'avoir une communauté de soutien et de travailler avec les forces de l'un et l'autre.
Exact.
Et ça amène la coopération, ça amène tout le monde à se connaître. Ça peut aussi défaire des préjugés à force de côtoyer avec des gens avec qui on n'a pas eu l'habitude d'être en contact. Donc,
exact,
c'est toujours très intéressant. Et on espère que notre intervention aujourd'hui, François, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent votre émission, va faire boule de neige.
Ben, peut-être qu'il y a des gens de la région de Châteauguay qui nous écoutent, parce que la ville de Châteauguay est heureuse d'annoncer son partenariat avec le centre multifonctionnel Horizon pour la réalisation d'un projet qui permettra d'offrir davantage de services pour les personnes en situation de handicap. Et donc, on parle des plans préliminaire du futur manoir Horizon qui sera situé sur l'île Saint-Bernard. Les locaux seront aménagés dans le bâtiment ancestral du vieux manoir des Sœurs Grises. Ben, ça doit être beau, ça. Mis à la disposition de l'organisme par la ville, les installations comprendront 10 chambres d'hébergement, 12 lits de répit à court et long terme et un centre d'activité de jour. Les lieux permettront d'accueillir une clientèle de 21 ans et plus vivant avec un handicap physique, intellectuel ou TSA. Les usagers et leurs familles bénéficieront ainsi d'un espace de vie où des professionnels pourront prendre en charge leurs besoins essentiels dans un environnement paisible et adapté. Voilà ce que nous dit la ville de Châteauguay.
Oui, donc on parle de services. Évidemment, vous l'avez dit, pour des gens de tout handicap de 21 ans et plus, et des services de répit pour les enfants à partir de 6 ans, peu importe le handicap. Donc, ça va aider des parents qui sont surchargés à pouvoir prendre une petite pause. Et encore une fois, ça va pallier pour des services gouvernementaux qui sont quand même difficiles à obtenir.
Oui, exactement. Et on voit des initiatives comme ça d'une ville à l'autre. La semaine dernière, on a mentionné parfois que ces initiatives-là sont un peu de vent et moins d'action, là. Mais parfois, ben, il s'agit de choses simples qui vont aider dans la région de Châteauguay les personnes en situation d'handicap. Et dans ce sens-là, c'est une belle initiative. Québec donne de l'argent justement pour des initiatives communautaires.
Oui, Québec a quand même sorti un bon montant d'argent, François, pour aider au niveau des
projets, je pense, plus précisément, ciblant les personnes aînées.
Oui, effectivement. Donc, ça va aider les personnes aînées. Il va y avoir différents projets qui vont être mis de l'avant pour les personnes aînées. On l'a dit dans les dernières semaines, les personnes aînées ont quand même beaucoup de difficultés au niveau à la fois du logement et au niveau financier. Et donc, le gouvernement a annoncé quand même qu'on mettait de l'avant des sommes importantes.
pour, on parle du financement de 89 projets dans le cadre du programme Québec Amis des aînés. Hein? Bon. Pour les années financières 23-24, marque une étape significative dans l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives visant à améliorer la qualité de vie.
On parle de 15 millions.
Oui, bon, ben, c'est, j'espère que c'est 15 millions chaque année, parce que des fois, c'est comme 15 millions.
Pas sûr, hein?
Fois, c'est 15 millions sur 4 ans, puis après ça, il n'y en a plus. Enfin, quoi qu'il en soit, parlant de détresse financière, il y a une loi qui est maintenant qui est maintenant en troisième lecture à Ottawa, qui est le projet de loi C-319, parle de la différence de versement pour les pensions de sécurité de la vieillesse et revenus garantis. Il y a une distinction qui est faite entre les personnes de 65 à 74 et celles de 75 et plus.
Oui, effectivement. Et le projet du Bloc québécois a été adopté à l'unanimité.
D'accord.
Donc, ça vise justement à ne plus avoir cet écart-là. Donc, qu'il y ait une hausse des pensions pour tous les aînés dès l'âge de 65 ans.
Parce qu'en ce moment, le Canada a actuellement deux classes de personnes aînées. Hein, voilà, celle de 75 ans et plus, pour qui la combinaison de sécurité de la vieillesse et le supplément de revenus garantis leur permet d'obtenir des revenus qui se situent au milieu de la fourchette de la mesure du panier de consommation. Et les aînés qui ont moins de 75 ans, eux, elles, tombent sous le seuil de la pauvreté. Alors, c'est un peu absurde d'avoir créé deux classes de personnes aînées. On vous revient après la pause avec un babillard de ce qui se passe dans la communauté. De retour. Avant de terminer, Élisane, vous avez des suggestions culturelles.
Oui, l'organisme d'un œil différent vient de dévoiler la programmation de son événement multidisciplinaire.
Oh.
Au menu, on a des expositions d'art, des projections d'œuvres cinématographiques et encore plus. Donc, l'objectif est de créer un pont entre les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme et les personnes qui n'ont pas de limitation fonctionnelle. On parle d'un événement qui va se dérouler du 13 au 24 mars à l'Écomusée.
Ah, l'Écomusée, ça c'est sur...
Du Fiermondre.
C'est sur Ontario, je pense, hein? C'est dans ce coin-là, Hochelaga-Maisonneuve.
Hein?
Oui.
Oups, c'est sur Atatakin.
C'est Atatakin, d'accord. Oui. Mais c'est plutôt vers le sud, c'est pas loin de la rue Ontario, il me semble. Mm-hmm. Oui, voilà.
Entre maisons, en fait,
je
c'est...
Je ne suis
entre...
pas très bonne en géographie, donc je vais essayer Mathieu et François.
Ben, c'est ce qu'on me dit à l'oreille. J'avais l'idée que c'était Atatakin et Ontario, dans ce coin-là. Oui, ah ben, on va y être du 13 au 26 mars.
Oui, donc c'est quand même bientôt, ça avance, ça fonctionne, on est déjà rendu au mois de mars.
Et une deuxième suggestion.
Et le 21 mars, dans le cadre de la Journée mondiale de trisomie 21, l'organisme regroupement pour la trisomie 21, vous invite à assister à une projection du docufilm « Courir pour Noah ».
Ça, ça va être au cinéma Beaubien, si je ne me trompe pas, le 21 mars.
Oui, donc, non pas le 21, le 19... Là, on dit que cet événement aura lieu le 19 mars à 19h au cinéma Beaubien.
On va y être, on va en reparler. Merci, Élisane. Merci tout le monde.
Merci beaucoup.